Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler, même une réunion réduite, mais le fait de pouvoir chanter ensemble, prier ensemble, être dans la communion fraternelle, c'est une grâce et un privilège. Voilà, j'aimerais vous conduire encore dans un voyage que nous avons commencé mardi dernier, donc dans les Actes des Apôtres. Nous allons au chapitre 27 et à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 14. Après un vent léger du sud, voici qu'un vent impétueux arrive. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu » qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur cette île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin et la jetèrent de nouveau, trouvèrent 15 brasses, dans la crainte de heurter contre des écueils. Ils jetèrent les 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et y mettre la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Amen. Voilà, donc nous avons vu ensemble, donc mardi dernier, que dans la parole de Dieu, il y a différentes tempêtes, et nous avons vu seulement quelques tempêtes voulues et permises de Dieu dans la vie des croyants. Nous n'avons pas considéré d'autres tempêtes, mais celles qui ont été voulues et permises de Dieu. Donc la tempête, nous avons souligné le fait que dans la tempête, eh bien, Dieu se révèle, révèle sa puissance, révèle sa miséricorde, révèle sa protection, révèle sa bonté dans ces moments de turbulence. Mais également, la tempête révèle également le cœur du croyant. C'est dans la tempête, au moment où il faut manifester la foi, que Dieu peut nous montrer eh bien, ce dont nous avons réellement besoin. On peut dire « j'ai la foi, je crois en Dieu, mais c'est dans les moments difficiles, quand il faut la manifester, que là, eh bien, nous sommes convaincus, comme dans Marc au chapitre 4, et Jésus leur a parlé, Marc 4, 40, il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Alors c'était étonnant quand même, des disciples, des croyants qui n'avaient pas la foi, mais Jésus ne dit pas cela pour les abaisser, pour leur faire du mal, mais il dit cela pour qu'ils réalisent leur besoin principal, leur besoin important, afin qu'ils crient à Dieu et que Dieu puisse pourvoir à ce besoin. Il faut vraiment être convaincu pour demander à Dieu quelque chose qui nous manque. Quand nous pensons l'avoir, eh bien, Dieu nous montre notre besoin réel. Nous avons vu que dans la tempête, Paul a été l'instrument entre les mains de Dieu, un instrument, un serviteur, un porte-parole entre les mains de Dieu. C'est grâce à lui et parce qu'il était dans le navire, ce croyant véritable, ce serviteur, il était dans ce navire que, eh bien, Dieu a pu secourir aussi tous les autres passagers. Quelle grâce quand il y a un croyant, quand il y a quelqu'un qui a une communion avec Dieu, quand il y a quelqu'un qui connaît Dieu dans un endroit, il peut prier avec efficacité, et le Saint-Esprit peut agir. Il ne faut pas minimiser, même s'il y a beaucoup d'incroyants autour de nous, le croyant, eh bien, celui qui va eh bien, être un instrument de bénédiction, là où il y a les ténèbres, il est une lumière. Et ça, c'est important de le réaliser, de le repasser dans notre cœur. Alors que le capitaine, le patron, tous ceux qui étaient sur ce navire n'avaient plus de solution, n'avaient plus d'instruction, de direction. Paul est celui qui manifestera qu'il est vraiment le véritable capitaine à bord. Quand il y avait la tempête, tous les repères, tous les gestes qui normalement auraient dû, mais là n'avaient plus aucune efficacité. Et Paul s'est révélé comme celui qui savait. Celui qui pouvait, celui au travers de Dieu bien sûr, ils sont partis avec des motivations personnelles, ils ont voulu continuer à cause de la cargaison, à cause des prisonniers, à cause de ceci, les motivations qui étaient personnelles alors qu'ils n'auraient pas dû partir, mais ils ont dû traverser cette tempête et ils ont tout perdu. Tout ce pourquoi ils sont partis, ils l'ont perdu. Que soit la cargaison, les prisonniers, on n'en entend plus parler. Mais dans la tempête, Paul avait une direction. Même s'il y avait le brouillard, même s'il y avait le vent, il y avait, eh bien lui, il avait une direction. Il avait une parole de Dieu pour toutes ces personnes qui étaient sur le navire. Lui, il avait une parole de Dieu. Parce qu'il était en contact avec Dieu, Dieu a pu lui parler. Et lui, il a pu retransmettre les paroles tous ceux qui étaient sur le navire. Nous traversons une tempête et la vie est faite de tempêtes, plus ou moins intenses, mais la vie n'est jamais un fleuve tranquille, que l'on soit avec Dieu ou qu'on n'est pas Dieu. La vie, elle est faite de tempêtes, de difficultés, de... Voilà, c'est la vie. Tant qu'on sera sur terre, il y aura des choses qui n'iront pas, il y aura des contrariétés, il y aura de l'opposition, il y aura... Tant qu'on sera sur la terre. Mais nous nous apercevons que, au travers de ces tempêtes, et celles que nous traversons, bien sûr, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, cette tempête, eh bien, alors qu'il y a beaucoup de voix qui se font entendre, vous savez, il y a beaucoup de... conseillers, mais ils ne sont pas les payeurs. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais quand on est aux commandes, ce n'est pas évident. Hein. Alors je crois qu'il nous faut prier pour notre gouvernement, plutôt que de dire on ferait ça, moi je ferais ça. C'est facile quand on n'y est pas. Mais quand on y est, qu'on traverse ces difficultés-là, surtout qu'on ne les a jamais traversées, ce n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Mais je crois que nos contemporains ont besoin d'entendre une voix, celle de Dieu. Celle qui peut véritablement, eh bien, au fond de leur cœur, leur donner la paix que nous avons. Nous, nous ne craignons pas, nous savons que nos vies sont entre les mains de Dieu, comme Paul ne craignait pas, il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, il avait confiance en Dieu. Et nos contemporains ont besoin d'entendre une voix qui vient de Dieu. Car Dieu parle encore aujourd'hui, et il parle à travers de ceux et celles qui ont un contact, une communion avec lui. Pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir une communion avec lui. On peut lire la Bible, on peut être d'accord avec la Bible, on peut même citer des versets, mais entendre la voix de Dieu, il faut une intimité avec le Seigneur. Et nous avons besoin de cultiver cette intimité avec le Seigneur, cette communion avec lui, passer du temps avec lui, afin qu'il nous parle, afin qu'aussi nous soyons des porte-paroles de ce qu'il nous dit. Paul n'a pas tremblé dans la tempête. Il n'a pas été saisi d'angoisse et de terreur parce qu'il savait que Dieu était avec lui et qu'il faisait la volonté de Dieu. Vous savez, même s'il avait fallu qu'il meure, il l'aurait accepté. Parce qu'il l'a dit à un moment, les chrétiens voulaient le retenir. Parce qu'il savait qu'à Jérusalem, il y aurait de la persécution. Il dit, mais je suis prêt à aller à Jérusalem et même à mourir pour le Christ. Voyez, Paul était un instrument complètement livré entre les mains de Dieu. C'est un exemple pour nous. Bien sûr, après le modèle parfait, Jésus, Paul aussi est un exemple pour chacun d'entre nous. Nous avons vu la semaine dernière les différentes responsables qui ont parlé. Nous avons vu aussi leur motivation personnelle. Mais là, nous voyons des solutions humaines. Nous avons lu quelques, nous n'avons pas lu tout le chapitre, mais vous pouvez le continuer. Il y a des solutions humaines qui ont été données. Mais ensuite, ce qui a permis à Paul d'avoir cette paix, d'être disponible pour entendre la voix du Seigneur. Vous savez, Dieu parle, il parle tout le temps. Mais nous, est-ce qu'on est disponible pour entendre la voix de Dieu? C'est ça, on est tellement occupé, préoccupé. Ce qui est important, c'est d'être disponible et disposé à entendre la voix de Dieu. Une seule parole du Seigneur peut changer toute chose. Si nous l'entendons et si nous la recevons dans notre cœur. Alors, dans leur désespoir, ils ont essayé tous les moyens pour se sauver eux-mêmes et pour sauver le navire et la cargaison. Ils ont tout essayé. Mais tous leurs efforts ont été vains. Ils ont tout perdu. Toute leur sécurité, tous leurs espoirs, toute leur force, toute leur assurance matérielle, tous leurs gains, ils ont tout perdu dans cette tempête. Mais Paul a tout gagné. Leur vie a été sauvée. Sauvée humainement. Parce que Dieu lui a dit, je te donne tous ceux du navire. Et il a cru dans les paroles du Seigneur et ça s'est réalisé. Il a été sauvé, non seulement lui, mais tout l'équipage aussi ont été sauvés. Alors, dans leurs efforts pour sauver le navire, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et ils attendaient avec impatience. Ils attendaient le jour avec impatience. Ils ont jeté leurs derniers efforts dans la bataille, j'allais dire, dans la tempête, pour sauver le navire. Ils ont tout essayé. Vous savez, dans ce monde, on va tout essayer. Tout essayer. En dehors du Seigneur. Les gens, des fois, jusqu'à leur dernier souffle, je me souviens de cet homme que j'avais visité un jour à l'hôpital. Il était en stade terminal d'un cancer du poumon. Il avait eu une trachéotomie et on m'avait appelé la famille pour lui parler du Seigneur, alors qu'il lui restait quelques jours à vivre. Alors ça m'avait vraiment... Et il arrivait à fumer encore avec le trou de la trachéotomie. J'avais jamais vu ça. Je lui ai dit, mais... Il me dit, mais je suis foutu de toute façon. Bon, il a accepté que je prie pour lui, mais il était loin de Dieu. loin du Seigneur, mais pour dire que jusqu'au bout, à quelques jours de vie encore, eh bien, il se détruisait encore. Quel lien là était. Les gens essayent tout, et même, mais qu'ils puissent saisir la grâce de Dieu. Alors, sur ce même navire, Paul aussi avait déjà jeté des ancres. Il était là sur le navire, mais dans sa vie, il y avait d'autres ancres que celles matérielles. Il y avait des ancres spirituelles. Et Paul les avait jetées depuis le jour de sa conversion, ces ancres spirituelles qui ne sont pas visibles, mais qui vont au-delà du voile. D'ailleurs, nous avons cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et verset 19. Il est dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré comme précurseur. » Cette ancre de l'âme, il nous faut un ancrage pour notre foi, il nous faut des ancrages pour la tempête, pour les moments difficiles, il nous faut un fondement, j'allais dire, mais nous parlons des ancres, il nous faut cet ancrage, cet endroit qui est stable, qui va nous permettre de tenir malgré tous les vents contraires. Et Paul avait jeté ces ancrages dans sa vie, son espérance, sa foi, sa force. Il y avait des ancres solides. Et la première ancre de Paul, c'est l'ancre de la présence de Dieu. Vous savez, Jésus est au milieu de nous. Nous le savons, peut-être nous le chantons, nous le disons, Jésus est au milieu de nous. Mais est-ce que nous le réalisons vraiment, que Jésus est au milieu de nous ce soir? La présence du Seigneur. C'est quelque chose de précieux, et je crois dans la vie de l'apôtre Paul, c'était une ancre sûre et solide de l'âme, la présence de Jésus dans sa vie. Il savait que Jésus était là avec lui, dans son cœur et sur le navire. Même avant que l'ange lui parle, Paul était convaincu de la présence de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence. Si nous savons que le Seigneur est présent, peut-être il y a des pensées que nous allons évacuer au milieu de nous, peut-être il y a des prières aussi que nous allons faire monter vers lui. Des prières s'adressant à Jésus, si l'on est conscient, mais Paul était conscient de la présence du Seigneur, quelle assurance, quelle force! Dans ces moments difficiles, dans le psaume 23, verset 4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dans les moments terribles, la vallée de l'ombre de la mort, ce qui va nous rassurer, bien sûr, si un frère nous dit une exhortation, tout cela, c'est bien. « Frère, je prie pour toi, c'est bien, mais quand nous savons que Dieu est avec nous, c'est ce qui est une force, une force. » Dans l'évangile de Matthieu, il est dit au chapitre 28 et au verset 20, après l'ordre de mission des disciples, des chrétiens, de témoigner, de prêcher, eh bien il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous, on prend souvent cette dernière partie, mais il y a ce qui est avant, qui est dépendant. Ça dépend de ce qui est avant. Si on obéit à ce qui est avant, eh bien voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la présence de Jésus dans notre vie, dans notre cœur, au milieu de l'assemblée, c'est ce qui sera une force, une ancre sûre et solide de l'âme. Quand le Seigneur est là, nous n'avons rien à craindre. Vous voyez, dans la barque, les disciples étaient avec Jésus et ils craignaient. Il n'y avait pas encore cette foi véritable. Et Jésus va le leur dire et ils ont été émerveillés quand Jésus a dit « Silence à la mer et au vent, tais-toi » et ça s'est calmé. Quand le Seigneur est là, nous n'avons rien à craindre. Deuxième ancre pour la vie de l'apôtre Paul et pour chacun d'entre nous, c'est l'ancre des promesses de Dieu. Elles sont encore actuelles, elles sont efficaces, elles sont puissantes, les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. quand il dit quelque chose, bien sûr, il faut prendre les promesses de Dieu, mais il faut prendre aussi les commandements, bien sûr. Tout est important, mais les promesses de Dieu, elles sont véritables, elles sont certaines. Dieu est celui qui parle et qui agit. Il suffisait à Paul d'avoir une promesse dans son cœur pour ancrer sa foi. Dans Romains 4, 21, il est dit « Ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, ses promesses, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Sa présence, sa connaissance nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Que nous puissions repasser dans notre cœur ses promesses. Ça fait du bien. On les connaît et on les repasse dans notre cœur. Que cette parole, dira Paul, habite abondamment dans votre cœur. Qu'est-ce qui pourra nous fortifier, nous encourager, faire grandir notre foi? Ce sont les promesses de la parole de Dieu. Et quand nous les connaissons, et nous les connaissons pourquoi? Parce que nous les lisons abondamment, nous les récitons. Et quand nous n'avons pas la Bible, eh bien nous pouvons réciter les promesses de Dieu. Ce n'est pas obligé de donner la référence, mais au moins citer la promesse de Dieu dans notre cœur. Jésus, face au diable, il avait la parole dans son cœur, il était la parole. Et il a pu, eh bien, vaincre le diable sur son propre terrain. Il y a plus de 300 fois, le Seigneur dit, « Ne crains point, mais crois, crois seulement, parce qu'il est là, ne crains point. » Donc nous, naturellement, nous sommes enclins à avoir peur, à être angoissés, à être stressés. Ça, c'est le cœur naturel, c'est comme ça. Nous sommes les uns et les autres de la même pâte, c'est comme ça. Mais quand le Seigneur est là, nous sommes conscients qu'il est là, quand nous serrons les promesses de Dieu dans notre cœur, il nous assure sa paix. Il nous donne sa paix. Il ne peut pas mentir, il nous donne sa paix. Troisième ancre aussi dans la vie de l'apôtre Paul, et dans chacune de nos vies, il doit en être ainsi aussi, c'est la providence de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui déstabilise Dieu. Alors ça, c'est rassurant, c'est bénissant de savoir que rien ne peut ébranler Dieu. Il est souverain, il contrôle tout. Tout. Même lors du déluge, dans le psaume 29, il nous est dit, eh bien qu'il était assis sur son trône. C'est nous dire, on n'en est pas là, hein. Le déluge, il y a eu toute l'humanité à part quelques-uns que nous connaissons, mais toute l'humanité a péri. Mais Dieu, il nous est dit, dans le psaume 29, je crois que c'est au verset 10, mais il était assis sur son trône. Ça veut dire quoi? Il contrôlait la situation. Ça ne lui échappait pas, ce n'était pas hors de contrôle. Dieu contrôlait, et Dieu contrôle l'humanité, l'univers entier. Ce n'est pas hors de contrôle. Là, il n'est pas dépassé par les événements, Dieu. Celui que nous prions n'est pas dépassé par les événements. Celui en qui nous avons mis toute notre confiance n'est pas déstabilisé. Et ça, c'est rassurant. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et ça, il nous faut le serrer dans notre cœur. Le Seigneur a dit à Paul que cette tempête faisait partie de son plan. Il ne lui a pas dit comme ça, mais il disait, mais il faut que tu comparaisses devant César. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, tu vas sortir vivant de là, et tous les autres aussi. Parce que toi, le but, c'est que tu comparaisses devant César. C'était prévu dans le plan de Dieu. Parce que nous voyons qu'ensuite, ils ont échoué sur l'île de Malte, et puis ils sont repartis avec un autre navire. Paul est reparti, et il est arrivé dans les Pouzzoles, et puis il est remonté dans l'Italie, il est allé jusqu'à Rome, pour comparaître devant César. Il fallait, c'était le plan de Dieu. Donc une tempête n'aurait pas pu contrarier le plan de Dieu. C'était sûr et certain. Et l'ange lui a dit, il faut que tu comparaisses. Et non seulement toi, tu seras sauvé, mais je te donne tout l'équipage aussi avec toi. C'est formidable, non seulement nous, nous sommes bénis en Christ, mais ceux qui sont autour de nous sont au bénéfice de notre prière, au bénéfice de notre témoignage, au bénéfice de ce que nous pouvons diffuser de la part de Dieu, au bénéfice de la parole de Dieu. Nous pouvons être des moyens de bénédiction extraordinaires autour de nous. Autour de nous, c'est sûr et c'est certain, mais il nous faut être poussé par la foi, par l'audace. Moi, je ne sais pas comment. Mais Dieu, lui, il a son plan pour sauver ceux qui sont autour de nous. Alors dans les tempêtes de nos vies, parce qu'il y en a des tempêtes, il y a ce virus, mais il y a d'autres tempêtes dans chacune de nos vies, il y a des tempêtes. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous réfugier dans le Seigneur. Dans la tempête, nous nous réfugions dans le Seigneur. Et il est dit dans Psaume 52, au verset 2, 57, pardon, au verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que la calamité soit passée. » C'est ce que Paul a fait. Il s'est réfugié dans le Seigneur jusqu'à ce que la tempête puisse passer. Il a été un moyen de bénédiction. Et quand nous suivons la vie de l'apôtre Paul, il a été un moyen de bénédiction partout. Dans les tribunaux, dans la tempête, mais sur l'île de Malte aussi. Alors qu'ils font un feu, parce qu'il pleuvait, il faisait froid, ils font un feu, ils jettent des branches. On voit aussi qu'ils mettaient la main à la pâte. Hein. Ils jetaient des branches dans le feu pour alimenter le feu. Une vipère le saisit. Et là, un miracle se produit. Et non seulement les gens ont été étonnés qu'il ne meure pas, mais il a été un moyen de bénédiction pour Publius, le responsable de l'île qui avait de la fièvre, etc. Et il est allé donc prier et il y a eu une guérison. Donc, eh bien, Dieu veut que nous soyons, les uns et les autres, des moyens de bénédiction là où nous sommes et là où nous évoluons, c'est dans sa parole. Et quand il y a la tempête, il ne faut pas sortir du navire, quitter le navire, parce qu'il vaut mieux être dans la volonté de Dieu dans la tempête qu'être hors de la volonté de Dieu sous les cocotiers. Comprenez ? C'est vrai qu'il y a des tribulations. Jésus nous l'a dit, vous aurez des tribulations. Tribulation, ce n'est pas un petit problème. Hein. Tribulation, vous regardez dans le dictionnaire, c'est quand même. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, s'il est avec nous, il nous conduira à bon port. Et enfin, une quatrième ancre, donc pour l'âme, ce qui assure notre foi, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, nous, on peut faire des promesses à quelqu'un, mais est-ce qu'on a les moyens de tenir nos promesses ? Pas toujours évident. Mais ce que Dieu promet, il a aussi la capacité de le faire. Et ça doit être une ancre pour notre âme, pour notre foi, une ancre solide. Quand Dieu parle, ses promesses sont là. On pourrait dire, des fois on a l'impression, quelqu'un qui nous dit « Oui, mais si vous connaissiez ma situation, c'est inextricable. » Comment ? Dieu peut ouvrir la mer Rouge, il peut ressusciter les morts, il peut calmer la tempête, et dans ma situation, il ne pourrait pas parce que c'est inextricable. Mais Dieu peut agir dans n'importe quelle situation. Il en a la capacité, il en a la puissance. Dieu est au-dessus de tout. Donc c'est une ancre solide de l'âme de savoir que, eh bien, Dieu peut tout. Dieu est au-dessus de tout, mais Dieu peut tout. Et l'apôtre Paul l'avait bien réalisé dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dira « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, soit ancrée, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, elles ne se discutent pas, elles se croient. On peut commenter, on peut dire, oui, mais ça, c'est écrit de cette façon, de cette façon. Est-ce qu'on la croit? Est-ce que ce que Dieu dit, on le croit? Si on le croit, eh bien, on se lève et on y va. Ah, je ne peux pas, je suis... On se lève et on y va. Seigneur, tu as fait des promesses, je veux les serrer dans mon cœur et je veux, eh bien, être l'objet de l'exaucement déjà de tes promesses pour que ceux qui sont autour de moi puissent voir aussi que tu es un Dieu fidèle, mais aussi je prie pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Parce que si nous, on n'est pas l'objet d'interventions, de miracles, d'exaucements, etc., comment on va prier pour les autres qui ont des besoins? Il faut déjà que le Seigneur agisse en nous. Bien sûr, on prie pour les autres. Bien sûr, Dieu ne guérit pas toutes les maladies. Je suis OK là-dessus. Mais Dieu pourvoit tous les besoins. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Il est fidèle. Dieu pourvoit. Dieu relève. Des miracles en son nom, il veut les faire. Il y a, et comme nous avons vu dimanche matin, il y a le surnaturel, le divin de Dieu. C'est pas dépassé. C'est pas pour le passé, c'est pas pour le début de l'Église. Les dons spirituels, les dons de puissance, les paroles de sagesse, de connaissance, les miracles, c'est pas pour il y a 2000 ans. Certains ont dit que quand le canon des Écritures a été réalisé, l'Apocalypse, eh bien c'est ceux qui étaient parfaits qui étaient venus, et ça y est, on n'a plus besoin ni de dons, ni de... Mais ça, c'est pas vrai. Ceux qui est parfait, qui c'est? Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Jésus. Bien sûr que quand il sera venu pour enlever l'Église, tout cessera. Et dans le ciel, nous l'adorerons. Mais pour l'instant, nous comprenons, les dons du Seigneur sont encore valables aujourd'hui. Jésus qui guérit, guérit encore aujourd'hui. Il faut que notre foi grandisse et que nous puissions saisir la main de Dieu qui est agissante. Les dons spirituels, c'est encore pour aujourd'hui. Dons de guérison, dons de miracles, c'est encore pour aujourd'hui. Jésus agit encore aujourd'hui. Il ne peut pas agir dans certains domaines et dans d'autres, non. Ça, c'était pour le début de l'Église, comme je l'ai dit dimanche, pour lancer l'Église, la première. Et c'est tout alors. Eux, ils en avaient besoin et nous, non. Je crois qu'on en a plus besoin qu'eux, du début. Parce qu'eux, ils ont vu Jésus, ils ont été en contact avec lui, donc on a largement besoin. Donc, cette ancre solide, la puissance de Dieu. Dieu peut tout. Il va même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu va au-delà. Que son nom soit loué et béni. Alors, il peut sembler que le bateau va couler. Dans notre vie, je parle. Hein. Il peut sembler que les vagues sont de plus en plus hautes, que ça bouge de plus en plus. Et pourtant, nous prions et ça bouge de plus en plus. Mais ni les vagues, ni le vent, ni aucune autre circonstance ne nous fera couler si nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Il n'y a rien qui pourra nous faire couler. Il faut que nous l'ayons en tête. Un jour, un ivrogne s'est converti et ses amis de bistrot et tout cela, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens plus ?» Il dit « Non, non, maintenant je suis croyant, Jésus m'a libéré. Oui, oui, mais ça ne va pas durer ça. De toute façon, tu vas y revenir, on t'attend, etc. » Il dit « Mais tu n'as pas peur de tomber, de retomber dans l'alcool? Tu dis que tu es délivré. » Il dit « Si, moi je tremble. » Mais celui sur lequel je suis, c'est le rocher qui ne tremble pas. Vous voyez, nous on peut trembler, mais celui en qui nous croyons, il ne change pas, il ne tremble pas. Lui, il nous assure, eh bien, que nous ne coulerons pas. Et il est dit dans l'Épître aux Romains, le temps nous manquerait pour lire toutes les références, mais dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, à la fin, quand nous lisons du verset 39 jusqu'à la fin, au verset 40, nous lisons que ni la mort, ni la vie, ni les circonstances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse extraordinaire. quand le diable nous dit tu vas tomber, quand le diable nous dit mais tu vas pas tenir, tu as ceci dans ta vie, tu as cela, tu pourras pas continuer. Mais nous pouvons lui dire rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut que nous le croyions, que nous le serrions dans notre cœur, que ces promesses, elles soient là et que nous puissions les repasser. Il est celui qui calmera la tempête au bon moment. Il dit silence et tout entrera dans l'ordre. Je vais terminer. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, ces lumières, ces repères, ces poteaux indicateurs, ces voix qui se font entendre. Oui, on parle du mal, tout ça, mais nous avons une voix. Nous avons quelque chose à dire. Jean-Baptiste pouvait dire « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Nous avons une voix et elle compte. Nous avons la voix la plus importante, la voix VOX, la plus importante sur cette terre. C'est de parler de celui qui peut tout. C'est de parler de celui qui peut sauver, qui peut délivrer parfaitement, de Jésus. Nous avons notre parole, nous avons quelque chose à dire dans ce monde. Et même si tous cherchaient des solutions, comme dans ce navire, ils jetaient les ancres, ils essayaient de tout sauver, ils n'ont pas pu. Mais nous ne sommes pas Christ, mais nous montrons, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Nous avons notre voix, peut-être elle est faible, mais donnons-la cette voix, donnons-la dans la tempête autour de nous. Alors nous sommes une voix, plutôt indicateur, un témoin qui dira dans la tempête, ne craignez point, confiez-vous, confiez votre vie à Jésus. Ne craignez pas, confiez votre vie à Jésus, il est fidèle. Alors souvenons-nous toujours de Jésus qui a affronté lui toutes les tempêtes. Il les a toutes traversées et il est sorti vainqueur. Il est notre capitaine. Il est celui qui nous conduira au port désiré. Alors que nos yeux soient fixés sur lui, croyons qu'il est présent dans notre vie. Croyons que ce qu'il dit, il l'accomplit. Croyons qu'il est souverain au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Croyons-le. Et croyons qu'il peut tout. Il a la puissance d'agir. Vous voyez, dans la vie de l'apôtre Paul, il est sorti vainqueur de toutes ces choses. Il est sorti vainqueur. Et il a pu dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi jusqu'au bout. Parce que sa foi avait un ancrage, avait un fondement solide. C'était pas déstabilisé, oh il y a ça, bon moi je vais plus, moi je quitte le navire, moi je vais là. Non, sa foi était solide, il savait que Jésus était avec lui, il croyait dans ces choses, et nous devons aussi. C'est pas une foi intellectuelle, mais une foi véritable, que le Saint-Esprit nous aide, et que la parole de Dieu nous aide. Nous traversons une tempête, comme je l'ai dit, il y aura d'autres tempêtes après celle-là. Et dans notre vie personnelle, certainement nous avons d'autres tempêtes que nous affrontons. Mais dans toutes les tempêtes, si Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Amen.